Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM et DAB+, pour passer ensemble une heure de 18h à 19h en parlant d'actualité geek et ludique. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes quatre. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Pierre-Yves.
Salut à tous.
De Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique.
Salut à toutes.
Alors, on parlait la dernière fois des, alors non pas d'abandonware, mais tout ce qui tombe dans le domaine public, puisque chaque année, on a le droit à voilà, plusieurs, soit œuvres, soit musique, soit même traduction, on a pu voir ça également, qui deviennent libres d'exploitation, on peut dire ça comme ça, et on a pu voir du coup bizarrement que bah, certaines personnes avaient apparemment déjà planché sur le sujet bien avant pour nous sortir 4 BD sur l'univers de 1984.
Le fameux bouquin de George Orwell dont on parle de plus en plus. Parce que la société actuelle commence à y ressembler de plus en plus avec l'espionnage, la vie privée et compagnie. Et ouais, effectivement, il y a quelques années, il y a Cthulhu qui était nommé dans le domaine public. Du coup, on s'est retrouvé avec plein de BD, de t-shirts, de mugs, de cravates, je sais pas quoi, sur le thème de Cthulhu. Bon, tout le monde avait le droit de le faire. Puis là, ils n'ont pas attendu longtemps. Hein.
En fait, t'as 4 BD qui sont sortis, une qui est sortie en novembre 2020 et 3 qui sont sortis le même jour, le 6 janvier 2021, avec le même nom qui est 1984, par des scénaristes, dessinateurs et éditeurs différents.
Ils doivent avoir des bases de données, ils surveillent aussi tous les trucs qu'ils donnent. Ils ont des agendas où c'est noté. Alors ça, on peut sortir ça, ça, on peut sortir ça. C'est trop fort. Il faut regarder, anticiper, regarder ce qui va bientôt sortir et ce qui va tomber dans le domaine public. Mais le pire, c'est pour faire de l'argent. Enfin, c'est opportuniste, bien sûr. Mais j'ai pu en fêter 2-3 et bon, ça va, la qualité au rendez-vous. C'est pas du vite fait, quoi. Comme on disait, c'est un thème qui est vraiment d'actualité en plus. Ça colle tout à fait.
On aura 1984 de Fidonesti dans les éditions Grasset. On aura 1984. Ils ont cherché hein, pour le titre de Jean-Christophe Derrien de Rémi Togolosa dans l'édition Soleil. Je vous le donne en mille. On aura également 1984, cette fois-ci de Sibyl Titeux de la Croix et Amazing Amésiane dans les éditions Rocher. On sait déjà de quoi ça va parler du coup.
Du coup, Dominique, est-ce que c'est une adaptation du livre ou bien est-ce que c'est une interprétation libre ou bien...
Alors on a notamment dans l'édition Soleil, ici, on aura une adaptation simplifiée, mais ce qui ne veut pas dire simpliste, attention. Donc elle va se caser carrément sur les romans. Les autres font une adaptation, alors notamment chez Grasset de Fidonesti. Ici, on sera sur une adaptation qui va coller trait pour trait au récit. Dans l'univers que tu as cité tout à l'heure, Dominique, dans l'univers Cthulhu, on a également des jeux vidéo qui sont sortis récemment.
Plein.
Et on a pu voir... Une news assez particulière, puisque les studios Frogwares, qui ont développé le jeu The Sinking City, donc un jeu un peu d'enquête dans l'univers de Cthulhu, invitent les gens à ne surtout pas acheter leur jeu.
Ah, si tous les développeurs de jeux avaient eu la même idée. Hein,
je vois à quoi tu penses, hein, tu me parles de cyberpunk ici. Mais non, ce n'est pas pour des raisons... de bugs ou que le jeu serait particulièrement mauvais, ici, c'est tout simplement par rapport à de grosses dissensions avec l'éditeur du jeu, qui est Big Ben Interactive et Nacon. Lors du développement du jeu, bah, il devait recevoir de l'argent de l'éditeur au fur et à mesure, avant la sortie du jeu et même après la sortie du jeu. Sauf que l'éditeur n'a jamais fait les versements promis, donc... Apparemment, il devrait plusieurs millions d'euros à la boîte qui a développé le jeu vidéo. Donc forcément, ils ont fait une plainte auprès de la plateforme Steam qui a retiré le jeu, mais là, le jeu a été remis sur la plateforme Steam, qui fait que bah, ils ont diffusé ce message pour pas que les gens s'enrichissent sur leur dos.
Après, t'as un léger souci de... je sais pas, ils vont sûrement régler ça en interne, c'est parce que... Quand tu as fait appel à un studio qui va développer pour toi une partie du jeu que tu vas éditer, ça se passe par des contrats. Et généralement, un contrat, tu des choses que tu attends et des choses que tu souhaites recevoir en plus de ce que tu as demandé. Les éditeurs ont demandé d'avoir le code source. Le studio qui a fait la création ne leur a pas donné le code source. Donc pour eux, le contrat n'est pas établi, donc ils n'ont pas payé le million de dollars qui était prévu. Et c'est là-dessus que cause le litige.
Le contrat dit bien que la propriété intellectuelle du jeu, donc le code source entre autres et les graphismes, etc., reste la propriété de Frogwares, donc l'éditeur ukrainien. Et donc ils ont cassé le contrat, donc ils ont dit bah tant pis, on travaille plus ensemble. Et la version qui est revenue sur Steam, qui a été remise sur Steam, c'est une version où il y a encore le nom de Nekon. Nekon c'est un éditeur, c'est un distributeur français. Et donc c'est pas la bonne version. C'est pour ça que le développeur, donc Frogwares, demande aux gens de pas acheter la version qui est sur Steam, mais d'acheter. On peut aller directement sur leur site pour acheter le jeu. Comme ça, on est sûr que l'argent leur va.
Alors c'est ça, sauf que généralement, sur des plateformes comme Steam, tu peux avoir généralement des petites réductions, ce qui font que les gens préfèrent aller sur des achats centralisés plutôt que d'aller directement sur le site des éditeurs ou des développeurs, ce qui se fait assez régulièrement. On en parlera tout à l'heure puisqu'on a un gros sujet qui est lié aux jeux vidéo et qui a un peu bouleversé le monde de l'économie. On en parlera tout à l'heure. Je vous propose de s'écouter un peu de musique et comme d'habitude, nous allons passer de la musique liée à l'actualité dans un challenge back to back où chacun va ramener sa proposition de musique. Aujourd'hui, le thème est lié à Monsieur Patate. Alors attention, on ne va pas vous passer de la musique sur les patates, hein, parce que je pense qu'on l'a sûrement déjà fait.
J'ai des noms qui me viennent en tête, c'est malin.
Ici, on vous parle de...
Ça peut être intéressant pour les enfants, par contre, hein, Monsieur Patate.
Alors, ici, c'est une actualité qui est plus ou moins liée au All... ça s'appelle comment ? All Inclusive ? Non, ça, c'est un film de Franck Dubosc.
L'écriture inclusive ? Enfin, c'est compliqué.
All Inclusive, c'est hôtel, restaurant, c'est tout ça.
Oui, c'est aussi un film de Franck Dubosc, hein, je vérifie en même temps. Un film qui n'a d'ailleurs pas du tout marché. Alors, ce qu'on appelle l'écriture inclusive, bah justement, pour par souci de parité, les gens commencent à écrire il/elle ou il.elle. Alors, c'est gênant, lorsque dans un mail, vous mettez il.elle, vous arrivez généralement sur des sites internet, ce qui peut être assez gênant. Ou lorsque, à la fin d'un mot, on met .es. Ça aussi, ça vous met sur des sites généralement espagnols. Alors, ici, c'est Hasbro qui a décidé de rentrer dans le jeu et également de proposer des versions différentes de Monsieur Patate. Et du coup, en renommant Monsieur Patate par Patate.
Patate.
Voilà.
Mais ça change tout. Attention, ça change tout.
C'est vrai qu'en France, on est un peu moins concerné, parce qu'en France, Monsieur Patate, on connaît comme ça, mais c'est surtout aux États-Unis que c'est un jouet qui est vraiment distribué par milliards, on pourrait dire. Les enfants connaissent tous, quoi.
C'est comme si un Colin Benz se changeait de nom. Ah, mais ils ont changé de nom.
Il est passé pas loin de changer de nom, Colin Benz. Hein. Aux États-Unis, c'est Mr. Potato Head, qui fait qu'on peut facilement enlever le Mister et on se retrouve avec Potato Head.
Oui, c'est parce que, en fait, oui, quand tu le vois, c'est un bonhomme à qui on peut mettre une moustache, un chapeau, enfin, les attributs masculins typiques, on va dire, un petit peu passéistes, quoi. L'image classique. Parce que les femmes aussi peuvent porter des moustaches, après tout, pourquoi pas.
Donc, en enlevant Mr. Potato Head, de un, ils font plaisir à plusieurs personnes qui se battent notamment pour l'écriture inclusive, mais également, ils permettent de diversifier leur gamme de jouets en proposant une Madame Patate et également un bébé patate qui peut être... Alors attention, c'est là que c'est fort. Bébé patate peut avoir deux Monsieur Patate comme papa et papa ou deux maman-maman puisque vous pouvez changer les genres de la patate à souhait. Une super idée.
Il s'adapte à la société.
Exactement.
Un peu comme Barbie aussi, effectivement. Donc les poupées avaient évolué aussi pour s'adapter à la société.
Voilà, il y avait des Barbies de toutes les couleurs, pour rester simple. Quand tu regardes les jouets des anciens temps, effectivement, t'as les jouets pour garçons, les jouets pour filles. Ça commence à disparaître tout doucement. Voilà, les filles jouaient forcément à la poupée ou à la marchande, et les garçons jouaient à la guerre et aux voitures.
Mais ça, c'est la société, en fait, qui transforme les enfants, je dirais. Mais de base, un jeune enfant ne joue pas forcément plus à la poupée qu'avec des soldats.
Tu lui joues avec ce que tu lui donnes. En général, il joue avec le carton dans lequel il y avait joué.
Alors, je vous propose de commencer cette édition de Back to Back avec des chansons dont il faudrait éventuellement changer le nom dès à présent. Je vous propose un groupe qui s'appelle Styx. Alors, Dominique, tu connais assez bien ce groupe. Puisque moi, c'est une découverte pour la soirée. Moi, j'aime bien me faire découvrir en cours d'émission des musiques. Alors, rien à voir avec le chanteur de The Police. Hein.
Non, c'est pas Stinks. Non, c'est un groupe qui a commencé dans les années 70, mais qui a fait des tas d'albums. Oui, mes grands frères avaient des vinyles à la maison. Mais...
Alors, qui étaient populaires plus ou moins dans les années 70-80. Ils sont originaires de Chicago. Et on a pu les revoir dans les années 2010 pour quelques sessions de rattrapage pour les plus jeunes. On va s'écouter Mister Roboto.
Donc Roboto.
Ou Robota. Ou Roboto A.
Oui.
Modern man. Secret, secret. much technology. Machines to save our lives. Machines dehumanize.
Voilà, c'était Styx avec Mr. Roboto, un titre qui n'est pas inclusif pour le coup. On enchaîne avec un petit documentaire, cette fois-ci, qui était disponible sur Arte, qui s'appelle « Des robots et des hommes ».
Oui, c'est parce qu'on on a parlé dans une émission récente de, des robots, puis c'est pas fini. Je pense qu'on va encore en parler dans cette émission et dans les émissions à venir. Donc c'est pour que les auditeurs puissent avoir plus d'informations. Un documentaire de 90 minutes à peu près qui s'appelle donc « Des robots et des hommes » et qui permet de voir l'évolution de la technologie robotique au fur et à mesure des années.
Voilà, en partant de 97, lorsque les premières intelligences artificielles ont battu des humains aux échecs, jusqu'à ces dernières inventions d'aujourd'hui. Un documentaire extrêmement intéressant. Et nous, on a aussi une petite news qui est liée aux robots. Ici, on va vous parler du chien robot que vous avez sûrement déjà pu voir, notamment à la télé, le chien robot de Boston Dynamics. Il y a dû avoir à peine 110 exemplaires, 150 exemplaires de ce robot qui, on appelle ça un chien robot puisqu'il se déplace à quatre pattes.
Boston Dynamics, c'est vraiment la boîte dont on parle le plus. C'est elle qui fait le plus de démonstrations spectaculaires. On a pu voir régulièrement des démonstrations avec des robots qui dansent, des robots qui font des exercices, vraiment à la façon des hommes. Et c'est vraiment eux qui poussent le plus dans le domaine de la robotique, que ce soit au service des humains ou des robots militaires. Enfin, ils tapent vraiment dans tous les domaines.
Je pense qu'effectivement, tout ce qui est militaire, comme tu disais Dominique, à mon avis, il y a beaucoup de choses dont nous ne sommes pas au courant. Mais bon, là aussi, il doit y avoir beaucoup d'améliorations et de découvertes dans ce domaine.
On les découvrira à la Troisième Guerre mondiale, c'est ça ?
Quand on se fera envahir, comme dans le film Terminator,
voilà.
Chute.
Ouais, je pense que tout se fera majoritairement par drone ici. Mais encore, les films de science-fiction ont bien exploité le sujet. Alors, chez Boston Dynamics, on a deux versions de robots. La première étant Spot, qui est celui qui se déplace à quatre pattes. L'avantage, c'est qu'il est modulaire et très agile dans les terrains difficiles, ce qui est vraiment généralement une grosse difficulté pour la majorité des robots. Et un autre robot qui est le modèle Atlas. Alors Atlas se déplace de manière bipède et il est capable même de taper des sprints. Donc il développe vraiment des gammes de robots assez intéressantes. Et il y a quelque chose qui a un peu dérangé la toile, c'est notamment une sorte d'œuvre artistique qui a été proposée par un des acheteurs du Spot.
Un disrupteur, on peut appeler ça.
En gros, ils ont décidé, si j'équipais un fusil de paintball sur un robot pour lui faire décorer une pièce, non ?
Ouais, un petit peu, ouais.
Du coup, cette vision d'avoir un robot avec un fusil sur le dos devient, mine de rien, assez réaliste tout d'un coup.
Je pense que c'était... Alors, je ne sais pas si c'était l'objectif des artistes, on va dire, à l'origine, ou si ça leur... Enfin, ça a un peu déclenché, effectivement, la polémique, parce que... En plus, les vidéos étaient impressionnantes, parce que le robot est équipé d'une caméra, ce qui envoie de l'intérêt un petit peu à la façon d'un jeu vidéo, un des fameux FPS, la Quake ou Unreal Tournament et compagnie, où tu diriges le robot et, sur l'écran, tu vois les points de peinture qui apparaissent. Tu peux colorer la pièce, dessiner, faire une œuvre d'art, quoi. Et effectivement, c'est un peu flippant.
En fait, t'as un peu des deux, parce que c'est un collectif qui a acheté le robot. C'est pas leur premier coup d'essai, ce qu'on avait déjà parlé lors d'émissions, voire même du podcast.
L'entreprise qui fait du troll.
L'entreprise qui fait du troll et qui avait fait l'application où tu laissais ton doigt appuyé sur ton téléphone pendant le plus longtemps possible pour gagner 25 000 dollars. La paire de chaussures de sport avec de l'eau bénite à l'intérieur, on en avait parlé aussi, je pense même que c'était dans les cadeaux insolites de Noël, comme ça. Là, même un membre du collectif a dit que c'était pas forcément si amusant que ça. Il y avait quand même un petit côté sérieux dans la vidéo. C'est surtout ça qui a dérangé l'entreprise.
Alors, MSCHF,
Mischief.
En tout cas, dans l'émission, est connu notamment pour Man Eating Food. Alors, si vous ne connaissez pas Man Eating Food, je vous invite tout de suite à taper sur YouTube en écoutant l'émission et de regarder, puisque vous n'avez même pas besoin de mettre le son, de regarder cet exploit réalisé par un seul homme. Alors, il y a combien de vidéos? Il doit en avoir bien une cinquantaine, une centaine.
Depuis
des,
le temps.
Des heures de plaisir devant YouTube. Et pour une fois. Pour...
Bon appétit, bien sûr.
On le voit même manger des pancakes de célébrités.
Peut-être bientôt des vidéos avec un robot qui mange, je ne sais pas. Mais oui, puis la société, donc Boston Dynamics, a, comment dire, elle a réagi, quoi, parce qu'elle a dit, nous condamnons la présentation de notre technologie de quelque manière que ce soit qui favorise la violence, les préjudices ou l'intimidation. Notre mission est de créer et de fournir des robots étonnamment performants qui inspirent, qui ravissent et qui impactent positivement la société. Là, tu fous de la gueule de qui, quoi. Si t'as l'armée qui vient de voir avec un contrat de plusieurs milliards, tu veux lui donner ton robot, puis c'est tout, quoi.
Alors, en même temps, c'est déjà le cas, mais... Ouais. Alors là, il parle justement par rapport à ce robot-là et de cette vente de ce type de robot. Il peut pas avoir le même robot, mais sur un autre type qui concerne autre chose. Le côté militaire du robot n'était pas une force pour eux de vente, alors que c'était le côté moral qu'il était plus... Donc là, tu sens plus le bâton un peu moisi qui te tend en disant « achète mon robot ».
Achète mon robot parce que je viens de l'équiper avec une nouvelle mise à jour sur lequel il y a un bras articulé au-dessus maintenant. Donc vous pouvez faire plein de choses avec.
Il coûte plus cher qu'une Tesla quand même.
Après, dans des situations dangereuses, envoyer un robot plutôt qu'un être humain, bon, c'est quand même toujours préférable. Donc même sans être forcément agressif.
Si en face c'est un humain, est-ce que tu envoies un robot armé? Est-ce qu'un gentil robot a le droit de tuer un méchant humain?
Après, tu n'es pas obligé de mettre des munitions létales dans l'arme. Hein.
Mais même le paintball, ça peut faire mal. Hein.
Ça peut faire mal.
Oh oui.
Je confirme.
Pareil.
Allez, on va s'écouter un autre extrait musical, une autre petite musique. Dominique,
ah bon, je te laisse très loin. Alors, tout à l'heure, on a commencé Stick, c'était l'année 70. Alors, on va aller dans le milieu des années 80. Il y a un groupe américain encore, ils viennent de l'Arizona, eux, qui s'appelle Mister Mister. Alors eux, ils seraient interdits là. S'il faut enlever les messieurs du titre, ils deviennent anonymes. Ils ont fait quelques morceaux connus. Parmi les plus connus, il y avait Kyrie. Le morceau le plus connu, c'est celui que j'ai choisi, c'est Broken Wings, un bon petit slow à l'ancienne. Ils ont pas duré longtemps, ils ont fait 2-3 morceaux, mais qui ont bien marqué les années 80.
And blood makes me whole. that you're half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Take these broken wings. You got to learn to fly. Learn to live and love so free. And when we
c'était Mister avec Broken Wings. On va s'attaquer à un gros sujet. Ici, on va partir sur une affaire d'économie qui peut être assez difficile à appréhender et à expliquer. Mais bon, vu que tout le monde en parle, on va quand même essayer d'en toucher deux mots, surtout parce que c'est lié de près ou de loin au domaine du jeu vidéo. On va partir avec le GameStop Gate. La société GameStop est majoritairement connue aux États-Unis et un peu partout dans le monde, mais elle existe en France. Ici, on appelle ça Micromania.
En fait, oui, c'est une chaîne de boutiques, donc de vente de jeux, mais boutiques physiques, principalement.
Et avec la mise en place des plateformes de téléchargement, des jeux dématérialisés, c'est vrai que ces boutiques, depuis plusieurs années, voient leur chiffre d'affaires baisser jusqu'au point où ça fait plusieurs années qu'elles commencent à être déficitaires.
Et puis le Covid n'a pas arrangé les choses en plus.
C'est ça, puisque généralement elles sont dans des centres commerciaux.
Elles sont des galeries de centres commerciaux et comme c'est fermé, c'est un peu foutu. Oui, ils vendaient beaucoup aussi de goodies, d'éditions spéciales, des jeux, aussi des jeux d'occasion, sans parler du matériel, les manettes, je crois qu'ils vendaient aussi des consoles, des poupées, etc. Enfin, il y avait de tout. Ouais.
Alors, certes, les chiffres d'affaires de ces sociétés ont diminué, mais finalement pas tant que ça. Parce qu'on aurait pu dire qu'en moins d'un an, elles allaient toutes fermer, mais finalement, même s'il y a eu une baisse, ça n'a pas été aussi important que prévu. Bon, par contre, c'est vrai qu'on peut quand même s'interroger sur leur avenir dans quelques années, effectivement.
En même temps, tu parles de baisse non significative, mais tu as quand même cette société-là. Là, il y a 2 ans ou 3 ans, elle avait un déficit de pratiquement 400 milliards de dollars.
400 millions, tu veux dire ?
400 millions, ouais. En même temps, ils ont plus à 1 million près maintenant.
Non, mais on aurait pu croire qu'elles allaient toutes fermer, là, en fait, pendant le Covid. Et puis finalement, ça n'a pas baissé autant que prévu. Effectivement, il faut trouver d'autres sources de vente. Donc, comme tu parlais, Dominique, des goodies et autres. Et puis après, le matériel. Bon, il y a quand même des gens qui aiment aller en boutique pour être conseillés. Donc, c'est pour ça qu'elles arrivent quand même un peu à survivre grâce à ça.
Mais le fait qu'elles soient en difficulté, ça a justement donné des idées à des gens, des boursicoteurs, pour être poli, de parier sur le fait que cette société allait couler éventuellement pour faire de l'argent. Et là, c'est comment est-ce que tu fais pour parier en bourse, pour gagner de l'argent, en mettant en investissement sur des sociétés qui baissent. C'est pas logique. Donc pour moi, ça marche pas comme ça. Tu cherches justement les sociétés qui vont monter, les startups et compagnie, pour faire de l'argent. Et ben, c'est possible grâce à un truc qui est assez bizarre, c'est le fait de pouvoir emprunter des actions. Tu peux acheter des actions, tu peux vendre des actions, mais tu peux aussi emprunter des actions.
C'est ça,
et donc, il y a des gens, c'est le short stop, c'est ça ? C'est le principe
short du short selling, stop. Short selling,
voilà, c'est ça.
dans le processus, entre le moment où tu les empruntes, tu les vends et tu les rachètes.
Tu les vends immédiatement.
Pour les rendre par la suite. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils se sont dit, tiens, GameStop a une valeur de $20 par action. Ce qui, pour nous, est beaucoup trop. Donc, on va les emprunter à $20. On va les vendre tout de suite. Et quand ça sera descendu à 5 ou 1 dollar, on les rachètera pour les rendre aux actionnaires. Tout simplement.
Et les différences, voilà, les 10 euros de différence, enfin, les 10 dollars de différence, ben, ils sont pour toi. Normalement.
Sauf que, sur Reddit, des gens de la génération de la trentaine d'années qui sont justement un peu liés à cet univers de jeux vidéo et qui peut-être, alors c'est la grande question, peut-être parce qu'ils voulaient aider les boutiques GameStop ou pour combattre le short-selling.
C'était plus pour combattre le short-selling. Voilà.
C'est la deuxième option, oui.
Ouais, mais tu as aussi, dans ce même groupe de Reddit, des boursicoteurs qui, eux aussi, voient un moyen de s'enrichir aussi, de faire des bons coups de bourse. Quand tu regardes certaines pages du compte Reddit, tu vois que c'est vraiment une réponse du berger à la bergère par rapport au short-selling qui a pris de l'ampleur et qui a été mise en avant.
Après, là, il faut savoir qu'ils étaient conseillés quand même par, on va dire, un organisme qui s'appelle Robinhood, donc qui les orientait un peu sur les achats et les ventes à faire en bourse. Et après, de manière globale, les gens aux États-Unis sont peut-être plus au courant, plus au fait de la bourse, alors qu'en France, bon, on est quand même assez éloigné hein, de ce type de transactions.
Alors, Robinhood, c'est pas forcément ce qui les conseille, c'est la plateforme qui permet maintenant aux internautes d'acheter facilement des actions, sans s'embêter des problèmes administratifs qu'on pouvait avoir avant.
Avant, effectivement, quand tu voulais jouer en bourse, il fallait, c'est pas évident, soit tu passais par des agences, en fait, des gens dont c'est le métier, en payant des frais, etc. Soit tu créais des comptes sur des sites, ça venait purement plus. Tandis que maintenant, avec des applications comme Robinhood, avec ton téléphone, tu passes 5 minutes, enfin même pas, tu passes une minute à installer l'application, à te créer un compte, et ça y est, tu es devenu un boursicoteur. Tu n'as plus besoin d'avoir une licence ou quoi que ce soit, ou de passer des diplômes. Tout le monde peut investir facilement, et tu achètes et tu vends tes actions, donc simplement, on soit un peu à la façon de Tinder, en swipant, si tu veux, gauche-droite, hop, j'achète, je vends, etc. C'est ça le gros problème, c'est que tout le monde, à travers la tête, à partir du moment où tu as un téléphone et une connexion Internet, tu peux jouer en bourse aussi sur des actions comme ça.
Du coup, un peu comme l'effet crypto-monnaie qu'il y a eu récemment, des gens se sont lancés à la bourse du jour au lendemain et ont acheté des actions GameStop pour suivre le flux d'internautes qui voilà, voulaient se combattre ou sauver. Je pense qu'il y avait un peu des deux, hein. Il y en a qui voulaient sauver.
Ouais. Au début, c'était vraiment le but, c'était vraiment noble. Enfin, c'était les sociétés là qui font du short-stopping, qui veulent couler pratiquement GameStop pour faire de l'argent dessus, un petit peu comme des vautours sur un cadavre, on va dire. Eh ben non, on va vous empêcher. C'est-à-dire que ces fameuses sociétés, c'est des sociétés très riches quoi, qui ont des milliards, c'est des fonds d'investissement, ils sont pas beaucoup d'employés, ils ont quelques milliards, mais genre ils sont très peu. Tandis que sur Reddit, si t'as 1 million de personnes qui mettent chacun un petit peu d'argent, ça fait beaucoup plus de poids, on va dire, que c'est peu de personnes qui ont beaucoup d'argent.
C'est ça, donc.
Et le but c'était ça.
T'as des gens qui ont claqué 500 euros. Et se sont achetés 5 actions, par exemple.
Oui, il y a des gens qui ont acheté juste une action, ça suffisait.
Alors, il y a eu l'effet Reddit, il y a eu également l'effet Elon Musk. Elon Musk fait la chasse aux investisseurs depuis ses déboires avec Tesla, notamment parce qu'il veut que les gens achètent des actions au long terme et non pas pour les revendre le lendemain. Pour lui, ça n'a strictement aucun intérêt pour sa société. C'est pas parce que votre action en bourse est très importante ou très faible que votre société se porte bien ou non. Et quand il a vu cette occasion de GameStop de faire un peu payer les gens qui font du short selling, il a balancé ça sur son compte Twitter également, en donnant le lien du Reddit, en disant bah voilà, c'est parti les gars, amusez-vous.
En même temps,
où il a fait ça, ça a monté énormément.
Pour rappeler que Elon Musk, par rapport à sa société Tesla, a subi aussi du short-selling par des fonds d'investisseurs qui n'aimaient pas trop la société Tesla et souhaitaient l'avoir périclité. Donc, ils ont essayé de faire ça sur lui. Il n'a pas marché. Donc, maintenant, on sait que Tesla, c'est une société qui est rentable depuis quelques années. Donc, ça n'a pas fonctionné. Et maintenant, Elon Musk essaie de se venger, de retrouver et de faire rendre caduque tout ce qui a été fait là-dessus.
Après, c'est vrai qu'on peut s'interroger aussi sur cette manière de gagner de l'argent, parce qu'on voit qu'en à peine un mois, le cours de l'action GameStop a été multiplié par plus de 20, et donc a même dépassé en fait, je veux dire, sa vraie valeur économique en fait, physique. Et donc bon, c'est vrai que derrière, c'est un moyen de gagner de l'argent sur finalement de, je veux dire, un peu du vide.
À l'origine, la bourse était créée pour soutenir des entreprises, des nouvelles entreprises, pour investir dans des entreprises, pour les aider à se développer. Peut-être que maintenant, c'est vraiment que pour faire de l'argent. Quand c'est encore des humains qui font ça, si c'est pas des logiciels ou des algorithmes qui boursicotent à ta place. Et donc, pour revenir à GameStop, ça a marché. C'est-à-dire que le but des gens de Reddit, pour simplifier un peu, pour les appeler comme ça, c'est que l'action, au lieu qu'elle baisse, et que les fameux shortstoppers se fassent de l'argent, ils ont dit non, on va acheter nos actions, mais on va pas les vendre, on va les garder le plus longtemps possible, quitte à perdre un peu d'argent, nous c'est pas grave, on peut tenir le coup. Et donc ça a marché, l'action n'a pas baissé, ce qui fait que les fameux shortstoppers qui avaient acheté plein d'actions, qui les avaient vendues, espéraient les racheter pas cher, mais pas de chance, pendant ce temps-là, elles avaient augmenté. Donc comme ils étaient obligés, au bout d'un moment, une semaine ou 15 jours, je sais pas, de rendre les actions qu'ils avaient empruntées, ils étaient obligés de les racheter, mais 10 fois plus cher, et ils se sont pratiquement ruinés pour pouvoir rendre les actions qu'ils avaient empruntées.
Alors il y a ça, ils se sont ruinés, mais attention. Lorsque vous empruntez des actions et que vous les vendez, parce qu'il faut savoir qu'une société, un pool d'actions, on va dire 75% des parts, sont tenues par des investisseurs qui gardent leurs parts. Et le reste sont des parts qui sont vendues, revendues sur un marché rapide. Donc, ils ont racheté des parts du marché rapide, mais les parties qu'ils ont empruntées, vu que tout le monde en a acheté, limite, ils ne peuvent plus en racheter d'autres.
Exactement. Il y a eu, ça s'est affolé, quoi.
Donc, on a des sociétés telles que Citron Research, Melvin Capital, qui se sont retrouvées avec des pertes à payer journalières extrêmement importantes.
Ça compte en milliards, c'est impressionnant, quoi.
Alors,
en plus, elles ont dû se battre entre elles pour récupérer le peu d'actions qui restaient, pour pouvoir s'en sortir et ne pas avoir trop de frais sur le long terme. Et là, les sociétés qui n'ont pas pu retrouver, enfin même recouvrer l'ensemble des actions qu'elles avaient empruntées, sont obligées de vendre leur portefeuille d'actions pour récupérer le capital et le rendre aux actionnaires qui ont été empruntés.
Alors tout ça, ce sont des. Il faut rappeler que ce sont des suppositions, puisqu'on n'est pas vraiment sûr que eux sont dans des difficultés financières par rapport à ça. Ils vont pas le dire ouvertement. Par contre, on peut voir que ils peuvent revendre des actions sur d'autres portefeuilles, qui pourrait indiquer qu'ils sont en quelques difficultés par rapport à ça.
C'est ça que ça devient compliqué. Et puis ça a déclenché tellement de débats. L'un des débats, c'est que les gens qui règlent la bourse, qui jouent en bourse, ils aiment pas qu'on leur impose des règles. C'est-à-dire que quand t'as des États qui veulent dire on aimerait bien réguler un peu les échanges boursiers, etc., les mecs de la bourse disent non, pas de régulation, on veut pas de régulation. Et tout d'un coup, tous ces gens-là qui sont aperçus qu'il y avait quelques milliers de gens sur Reddit qui pouvaient venir les couler, les embêter, ils ont commencé à dire aux États, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de régulation, s'il vous plaît? Et là, enfin, tout le monde s'est foutu de leur gueule, quoi. C'est vous qui, depuis des années, nous dites que vous ne voulez pas de régulation, et maintenant que vous commencez à perdre de l'argent, ça ne vous va plus. Ils étaient un petit peu embêtés que le Pékin moyen, les gens de la rue, puissent aussi avoir autant de puissance qu'eux, pratiquement. C'est ça qui les a un peu rabaissés.
Qu'est-ce qui fait qu'il y a une grosse polémique? C'est que cette plateforme Robinhood, qui vend des actions, à un moment a commencé à plus ou moins stopper certains acheteurs.
Au départ, si je dis pas de bêtises, ils ont carrément bloqué les ventes. Ils ont dit hop, on fait une pause, on arrête un petit peu pendant 2-3 jours, on se calme, on réfléchit, on voit ce qui se passe. Mais ils ont été obligés de tout le monde, et du coup les gens de Reddit ont commencé à faire une class action pour dire c'est quoi cet opérateur là, on est dans un pays libre, c'est le marché libre, c'est quoi cet opérateur qui décide de lui-même qu'on n'a pas le droit d'acheter ou de vendre, c'est pas possible, quoi. Donc il y a eu des plaintes. Du coup, Robinhood a été obligé de remettre petit à petit des ventes. Ils ont limité d'abord, c'était une action par personne par jour, etc. Enfin, vraiment, ils étaient très embêtés, quoi.
Alors, sauf que si on regarde derrière, on s'aperçoit que Citadel est un grand groupe qui détient notamment Melvin Capital, qui fait partie de ces investisseurs qui ont misé sur la baisse de GameStop. Ils sont plus ou moins à la tête de Robinhood.
Donc, c'est embêtant, quand même. C'est bizarre.
Voilà, donc ils ont une main des deux côtés.
Pour faire simple, c'est une société qui alimente en fond le logiciel Robinhood pour que ce logiciel reste gratuit et qu'il n'y a pas de frais de transaction par les utilisateurs. Et donc, ils ont un accès de vie et de mort sur l'application.
Donc, en gros, le jeu est faussé. On se doutait un petit peu que le jeu en bourse était un faussé, mais là, c'est devenu flagrant.
Et là, tu te demandes est-ce que le fait que l'application est bloquée, les utilisateurs, généralement, principalement de Reddit ou des petits boursicoteurs, pour laisser le temps à ses succursales comme Melvin et compagnie de pas avoir le temps de racheter ou de proposer des meilleures choses, de se refaire. C'est pas clairement défini, mais tu as quand même le doute.
Pierre-Yves, tu voulais ajouter quelque chose ?
Bah, j'allais dire qu'effectivement, Citadel possédait une partie de Robinhood. Après, bon, là, c'est un exemple, mais ça peut très bien arriver dans d'autres cas, d'autres domaines, pas forcément que l'informatique. Hein. Effectivement, le marché est ouvert de plus en plus de personnes. Ce type d'événement peut se reproduire plusieurs fois dans l'avenir.
Donc là, c'est à suivre. De toute façon, on imagine qu'il va y avoir des régulations qui vont se mettre en place. Ça, tout le marché est un peu choqué sur le moment. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à la bourse, qui vont étudier tout ça. Et on imagine que les gouvernements vont aussi jeter un coup d'œil pour vérifier que le marché reste clair, on va dire.
Alors, qu'est-ce qui est malheureux dans cette histoire ? C'est que ici, les internautes essaient de se rallier en masse un peu contre Wall Street, un peu contre ces règles du jeu qui sont complètement aberrantes. Hein. Et c'est un peu ce qui fait tourner notre monde assez bizarrement aujourd'hui.
C'est un peu David contre Goliath, sauf que bon, on voit que finalement David utilise les mêmes armes que Goliath pour lutter contre lui. Donc bon.
Sauf qu'il ne risque pas de gagner, puisque ces gens-là vont, une fois que la perte est faite, voilà, vont réussir à se débarrasser de leurs actions. Et qu'est-ce qui restera ? Eh ben, ce sont tous ces petits actionnaires, tous ces internautes qui ont misé et qui vont se retrouver avec des parts de marché qu'ils ont acheté une fortune sur une société qui ne valait même pas $20.
Pas forcément, oui, c'est ça, mais ils vont avoir des pertes limitées parce qu'ils vont pas en acheter, ils ont fait selon leurs moyens. Il y en a quelques-uns au passage qui, effectivement, en ont profité pour faire un petit peu d'argent, quoi. On a eu des exemples d'étudiants, par exemple, qui ont acheté quelques actions. Ces actions, ils ont attendu qu'elles montent un peu et ils les ont revendues. Et on a eu des exemples d'étudiants qui en ont profité de se faire un petit peu d'argent comme ça pour rembourser leurs prêts d'étudiants ou acheter une maison, ce genre de choses. Mais ça reste limité quand même.
C'est ceux qui ont essayé de s'accaparer une part du gâteau vers la fin, on va dire à partir de quelques semaines. Où l'action était déjà assez haute et a acheté l'action très haute et vont essayer de la revendre d'ici quelques jours et vont attendre que le soufflet retombe pour pouvoir récupérer ses actions à $20. Donc, une personne l'a acheté à 400 et tu vas te la revendre, ben, personne ne va la vouloir l'acheter tant qu'elle ne sera pas redescendue et tu vas faire une perte.
Alors, le grand perdant ici, ça reste GameStop, puisque eux n'ont strictement rien à gagner dans ces tractations financières.
Ils vont peut-être durer un peu plus longtemps, quoi. Si effectivement GameStop est amené à couler, ils vont peut-être pas couler tout de suite, ils vont peut-être durer un peu. Ça, au moins, il y a des gens qui savent que maintenant GameStop existe, donc peut-être qu'ils vont aller dans les magasins pour ceux qui sont encore ouverts, mais c'est tout.
Et en gros, la solution ici, ça aurait été que ces personnes sur Reddit proposent à GameStop de faire couler la bourse, de dire bah voilà, mais nos actions ne veulent plus rien, on sort de bourse, et eux de racheter un fonds de nouvelles actions. Recréer un peu une nouvelle société.
Après, si on en revient à l'aspect jeu de société, on s'aperçoit qu'il y a aussi des jeux de société justement qui jouent beaucoup sur cet aspect j'achète des actions, je revends, je me fais de l'argent avec l'inflation. Et en fait, finalement, ça ne nous choque pas tant que ça. Donc, du coup, là, on peut être très surpris.
La différence, c'est que quand tu achètes un jeu de société, tu as la règle. tu peux t'amuser à changer les règles en cours de jeu, mais bon, la règle est bien écrite, elle est claire et tout le monde l'a lu.
Ouais, enfin bon,
bah, ici là, aussi,
les règles, tout le monde les connaissait.
Oui, sauf que tu savais pas que, par exemple, qu'il y avait des joueurs qui discutaient entre eux en douce, etc.
Est-ce qu'on a le droit de tricher si c'est pas vu ?
C'est ça, le truc ici, c'est que les gens pensent qu'ils vont en guerre contre les boursicoteurs de Wall Street et en se disant on va vous battre avec votre propre règle, alors que les règles du jeu, c'est la bourse, c'est Wall Street en elle-même, quoi.
T'as le propriétaire, le type qui a ramené la boîte de jeu à la soirée, qui explique les règles, puis en cours de partie, il prend son stylo, puis il modifie les règles. Ah, je vous avais pas. Ça nous arrive aussi. Ah, en fait, j'avais oublié de vous expliquer cette règle à la fin. Bon, en fait, c'est moi qui ai gagné, mais.
C'est un proto.
C'était un proto, c'était pas final. Mais j'avais oublié, là, il y avait une petite règle, là, j'ai oublié de vous la dire, c'est pas gênant. Hein. Bon, ça fait juste que je gagne 10 points de plus à la fin. Ça nous est arrivé sans arrêt, ça.
Ouais, j'ai l'impression que c'est surtout sur tes jeux, Dominique.
Oh non.
Ah, je vous l'avais pas dit, bah ça on peut le faire. Ah bon, j'ai gagné.
Exactement.
Allez, on va s'écouter. On va s'écouter un peu de musique, parce que c'est un gros dossier, mine de rien. Reynald. Ah non, Pierre-Yves, tu en as une courte. Allez, tu vas rebondir dessus, Renan.
Ouais, voilà.
Non, surtout pas.
Bon, mais c'est une très bonne chanson. Aujourd'hui, alors, comme l'émission est enregistrée, donc on est mardi 2 mars, et ça fait, on va dire que c'est un anniversaire, vu que ça fait une trentaine d'années que Serge Gainsbourg est décédé, et c'est pour ça que j'ai choisi une chanson de Serge Gainsbourg avec Monsieur. dans le titre. Alors, c'est pas forcément sa chanson la plus connue, que j'aime beaucoup, et c'est alors, avec Monsieur du coup dans le titre, c'est Dr. Jekyll et Monsieur Hyde, donc pas Mister, mais Monsieur Hyde, donc une chanson de Serge Gainsbourg.
Pas le docteur Jekyll.
Hello, Dr. Jekyll.
Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll, il avait en lui un monsieur Hyde qui était son mauvais génie. Mr. Hyde ne disait rien, mais en secret n'en pensait pas moins.
Hello, Dr. Jekyll.
Je vous dis que je ne suis pas le docteur Jekyll. Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Docteur Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites garces qui se foutaient de lui. Mr. Hyde, dans son cœur, prenait des notes pour le docteur. De Dr. Jekyll.
Hello, Dr. Jekyll.
Mon nom est Hyde, Mr. Hyde. Dr. Jekyll un jour a compris que c'est ce monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Mr. Hyde, ce salaud a fait la peau du Dr. Jekyll.
Voilà, c'était Serge Gainsbourg avec Dr. Jekyll et Monsieur Hyde. Un choix proposé par Pierre-Yves pour ce thème du back-to-back. On quitte le GameStop Gate. Alors, juste un petit dernier mot, puisque quelqu'un a cité un peu ces algorithmes en bourse, puisqu'il y a des bots qui vont automatiquement pour vous acheter des actions pour les revendre quelques minutes, quelques heures plus tard.
Tu plaisantes, ça se joue quelques à la secondes. Milliardième de seconde maintenant. En fait,
c'est vrai qu'ils cherchent les connexions les plus rapides pour être les premiers à donner les ordres en fait, d'achat et de vente, pour du coup profiter au maximum de la variation.
Au départ, effectivement, c'est des humains qui, petit à petit sur des ordinateurs, faisaient des échanges au téléphone avec d'autres boursiers, d'autres agences, ils achetaient, ils vendaient, etc. Puis de plus en plus, les ordinateurs n'ont pas simplement servi à afficher les infos, mais aussi à donner des conseils, et à analyser, et à afficher en temps réel les causes, et à proposer des solutions. Et de plus en plus rapidement, au début, on réagissait à une heure près, puis à une minute près, à une seconde près, mais là, les humains suivaient encore. Mais quand tu dois commencer à réagir et à acheter, à vendre au dixième de seconde ou au centième de seconde, les humains peuvent plus suivre, donc ils ont programmé, ils emploient des mathématiciens, des étudiants en mathématiques pour programmer des algorithmes qui, en fait, l'humain n'a même plus de décision, quoi. Il donne des vagues conseils à l'ordinateur et c'est le problème, c'est qu'on arrive à un niveau où c'est l'intelligence artificielle qui fait des choix sans presque consulter l'humain.
Et donc, tu as ces algorithmes qui tournent et tu as des gens qui détectent que des personnes utilisent un algorithme et développent un algorithme pour contrer l'algorithme qui est en train d'acheter.
C'est
pour
une vraie partie d'échecs, c'est incroyable.
L'économie, malheureusement, c'est devenu un jeu.
C'est
Bill Gates, d'ailleurs, qui compare un peu la frénésie de GameStop. Il compare ça à un jeu d'argent. Et mine de rien, c'est comme ça que tourne le monde actuellement, puisque tout tourne autour de l'économie.
Tu auras des algorithmes qui vont détecter que tu as deux algorithmes qui sont en train de se battre et qui va faire des fausses informations pour que l'algorithme qui contre le premier algorithme lui donne des fausses... Enfin, ça va être compliqué, mais ça va être ça, quoi.
C'est déjà le cas.
Et notamment dans les jeux vidéo, quand vous prenez les MMO avec tous ceux qui farment, et du coup, pareil, des algorithmes pour détecter ces comportements, c'est la même chose.
Allez, d'autres petites actualités. Alors, on a pu voir ça assez récemment, et notamment sur YouTube. Alors, on repart un peu dans l'intelligence artificielle et dans ses déboires. Sur YouTube, on essaye de filtrer certains contenus, puisque forcément, on a de tout et surtout n'importe quoi. Donc, on laisse l'intelligence artificielle dégraisser un peu les vidéos qui sont proposées. Et l'intelligence artificielle de YouTube a décidé de bloquer des milliers de vidéos qu'elle a trouvées
offensante. Bah, c'est normal. Attends, des gens qui discutent en temps réel sur YouTube de blancs qui se battent contre des noirs, c'est pas possible. Faut supprimer ça. C'est normal.
C'est ça. Donc un visible discours raciste.
On dirait des applications qui bloquent des chansons pour droit d'auteur. Quoi. C'est bizarre.
C'est ça. Alors, elle n'a pas fait que d'ajouter des bips pendant les propos, mais non, elle a carrément bloqué les vidéos pour incitation à la haine. Donc, Radić, un joueur d'échecs croate, a été bloqué puisqu'il faisait un peu des spectacles d'échecs, et notamment avec le grand maître Hikaru Nakamura. Et sans aucune raison, du jour au lendemain, il n'avait plus de chaîne YouTube. Alors, heureusement, la situation avait été réparée en moins de 24 heures.
Mais l'avantage quand même, blanc contre noir, sont deux couleurs qui se repèrent très facilement. Et du coup, pour les personnes qui ont des problèmes dans la vision des couleurs, donc du coup, c'est quand même très utile d'avoir deux couleurs aussi éloignées. Même si ça rappelle forcément un peu les guerres, j'en regarde de sécession et autres.
T'as aussi le côté du quels seront les prochains mots que l'IA va utiliser pour sabrer les chaînes de YouTube, par exemple.
En fait, tout ça, c'est parce que tu as des white lists et des black lists.
Donc, voilà, tu es encore des termes racistes, franchement.
Ah ben voilà. On sait, ça sera quoi le prochain black to black.
Pourquoi ça ne serait pas les listes noires qui seraient des mots positifs et les listes blanches qui seraient des mots interdits pour changer, hein, rouge et vert.
Mais très bon point, Dominique.
Les publicités pour les lessives qui lavent plus blanc que blanc. C'est pas normal.
Et ça, tu rentres dans un contexte très, très philosophique. T'as toujours le combat de l'ombre contre la lumière. Enfin, dans les jeux de rôle, t'as toujours le côté.
Le chocolat blanc contre le chocolat noir. Le chocolat noir. Voilà. Qui est le chocolat plus pur, c'est bien connu.
Voilà, chocolatine, pas en chocolat, tu dis comme ça, quoi.
Non, tout de suite, non.
Demain, si mon t-shirt blanc il devient noir, Dom, je fais la gueule, je suis désolé.
Pourquoi t'aimes pas le noir? Ah, ben voilà, encore un détail.
Ouais, j'avoue, c'est l'inverse. Enfin, si j'ai du blanc sur mon t-shirt noir, je fais la gueule aussi.
Après, on retrouve, comme tu disais un peu, Renaud, le yin et le yang, donc les deux aspects qui s'opposent, mais qui en fait sont essentiels l'un à l'autre.
Mais là, effectivement, c'est un petit peu anecdotique, c'est le fait que les jeux d'échecs aient été bloqués parce que c'est des blancs qui jouent contre les noirs, alors que j'ai vu des jeux d'échecs où il y a des pièces rouges et des pièces vertes, ou bleues, ou marron, c'est pas un problème. Mais effectivement, on se dit que ceux qui ont programmé l'intelligence artificielle de Google, ils avaient déjà fait des bêtises, je sais pas si vous vous souvenez, que dans l'intelligence artificielle, l'algorithme de reconnaissance d'images.
Ah ouais, elle était terrible celle-là.
C'était terrible parce que dans les images que l'intelligence apprenait à reconnaître ce qu'il y avait sur les photos, et quand on lui montrait des motos il y avait des personnes afro-américaines, et je crois que l'intelligence artificielle a dit c'était des singes ou des gorilles.
Oui, c'était des gorilles, ouais.
C'est ça. C'est bon. Ils se sont dit, on va se calmer un peu.
Ouais, ben ça va loin, malheureusement. Mais après, ces intelligences artificielles doivent apprendre. Donc, elles ont malheureusement une marge d'erreur qui est présente.
La différence avec l'humain, c'est que l'intelligence artificielle, quand tu lui apprends un truc, elle le retient et elle l'emprunte. Les hommes, ils ont un peu de mal. On a beau le répéter. J'ai encore vu plein de gens qui avaient le masque sous le nez aujourd'hui.
Là, ce que tu pourrais dire là-dessus, c'est que oui, effectivement, tu peux avoir une IA qui apprend, qui développe justement une finesse de repérage des chaînes YouTube qui ne serait pas bon de montrer. Mais dans ces cas-là, derrière, tu as quand même une action humaine de valider ou non l'interdiction.
On en parlait tout à l'heure, c'est quand l'intelligence artificielle, tu les donnes main libre, allez, vas-y, fais ce que tu veux, choisis, prends tes propres décisions. Et il peut y avoir quelques déraillements.
Ils préfèrent gagner du temps et ne réparer que les erreurs plutôt qu'en perdre, entre guillemets, et de faire des qualitatifs en validant ou non les chaînes concernées.
Après, l'apprentissage par l'erreur est quand même un apprentissage qui est très utilisé dans la scolarité d'un peu tout le monde, en fait. Hein, on apprend généralement, on disait, plus souvent plus de ses erreurs que quand on réussit du premier coup. Bon, ça marche bien pour les humains, peut-être que ça marche un peu moins bien pour les IA.
Mais tu peux voir les conséquences, parce que quand tu te trompes à l'école, ça va, il n'y a pas de mort d'homme. Mais le jour où on enverra des chiens robots avec des armes régler des problèmes et il s'est trompé, désolé, il n'a pas tiré sur la bonne personne. Bon, il a appris de ses erreurs, il va recommencer. Mais bon, pour la personne qui est tombée...
S'entraîner, j'ai une belle merde disponible.
Bonne idée.
On sait que dans ce cas-là, il aura fait involontairement. Par contre, quand c'est des humains qui le font, je suis pas sûr que ce soit toujours involontaire. Quand même.
Intelligence artificielle contre conneries naturelles. Je ne sais pas qui a marqué le point aujourd'hui.
Allez, un point chacun. Pas de jaloux. On va se quitter avec la proposition de Reynald pour un choix musical lié à l'écriture inclusive.
en fin d'émission, risque d'être coupé, je suis déçu. Mais c'est pas grave, je tente quand même. Si je vous dis le prince des ténèbres, vous allez tout de suite penser au diable, etc. Mais moi, je vous parle du chanteur de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, qui avait à l'époque sorti son premier album solo, s'appelait Blizzard of Oz. Et sur cet album, on trouve des chansons hyper connues encore de maintenant, comme Crazy Train et compagnie. La chanson que je vous propose est Mr. Crowley, qui devient donc maintenant Crowley.
Allez, on se quitte sur cette belle chanson. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Restez avec nous sur Radio Campus. On enchaîne avec, je pense, les Codignous qui seront sûrement là ce soir. Ah, ciao, bon dimanche. Salut.
À plus.
À plus. Salut à tous.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
Radio Campus Lille.